France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Il faut les imaginer partout, sur notre peau, dans notre intestin, nos poumons et le reste de nos organes. Les microbes sont partout, ça grouille dans tout notre corps. Et on a pourtant tenté de les éradiquer à coups d'antibiotiques. Erreur ! Car ces bactéries sont nos amis. Nous en avons besoin pour préserver l'équilibre et la diversité de nos microbiotes. Nous en avons besoin aussi pour assurer les processus de fermentation. Oui, ce matin, nous allons parler bactéries, microbiotes et fermentation. Et vous allez voir, ça va nous faire du bien. Pour toutes vos questions, un seul numéro, le 01 45 24 7000. On attend vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France et vos messages sur la page Facebook ou sur WhatsApp. Nous sommes le jeudi 3 juillet, vous écoutez France Inter, Grand Bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Eva Rock.
Dès notre premier souffle, nous sommes exposés à des milliards de bactéries, des microbes maternels avalés lors de notre venue au monde. Ces microbes colonisent notre tube digestif. Ils vont former notre flore intestinale, ou comme on l'appelle désormais, notre microbiote. Cette forêt intérieure est au cœur d'une révolution médicale. Récemment découverte par les chercheurs, elle se révèle un trésor.
Vous venez d'entendre l'extrait d'un documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade diffusé sur Arte, intitulé « Microbiote, le fabuleux pouvoir du ventre » où il est question, évidemment, de bactéries, notre sujet du jour que nous allons aborder grâce à nos deux invités, professeur Geneviève Héry-Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Bactériologue, vous travaillez à l'hôpital de Brest, vous dirigez le laboratoire de bactériologie Microbiota qui est rattaché à l'INSERM et dont la spécialité ce sont les maladies génétiques et en particulier la mucoviscidose, on en dira un mot parce que c'est votre cheval de bataille, j'allais dire votre grande spécialité, et vous signez ces microbes qui nous veulent du bien, c'est chez Humaine Science. À vos côtés, bonjour Uendo.
Bonjour Eva.
Vous êtes vigneronne au domaine de Combriac et autrice d'un livre passionnant qui s'appelle « Fermentation Rébellion », c'est aux éditions Équateur. Alors hier matin, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Hier matin, Massardier, qui me prépare cette émission, est arrivée en buvant une boisson dont j'ai gardé la bouteille, alors je vais taire la marque évidemment. Il s'agit d'un kéfir. Et avant que vous nous expliquiez de quoi il s'agit, Uendo, est-ce que vous pouvez lire et commenter l'étiquette Geneviève Héry-Arnaud ? Si vous arrivez à bien lire ce qui est indiqué, vous voyez en gros, hein, plutôt ce qui est en gros là, juste là. Oui, voilà, exactement. C'est marqué.
Alors, voilà. 1 milliard de micro-organismes. 1 milliard, je dirais que c'est pas mal. Alors, on ne sait pas si c'est par millilitre ou en totalité.
Alors, ma question, c'était, est-ce qu'il y a 1 milliard de micro-organismes dans cette petite bouteille?
J'imagine que c'est ça.
D'accord.
Je regarde s'il y a un petit peu plus de précision. Et quel micro-organisme? Il n'y a pas d'indication.
Ouais.
Non,
mais c'est possible
le mystère demeure.
D'accord, mais c'est mais possible qu'on ait 1 milliard de micro-organismes dans cette petite bouteille.
Ah, complètement. Ah oui, complètement. Ça me...
Ça vous choque pas?
Ah non, non, pas du tout. Non,
et alors, il s'est marqué cru, vivant, non pasteurisé, pauvre en sucre et source de joie. Est-ce que la fermentation, Uendo, est une source de joie?
Et oui, c'est une source de joie. Et c'est vrai que la fermentation peut... effrayés, rebutés, parce que il y a des croyances qui se sont développées comme quoi la fermentation, c'était de la pourriture, de la dégénérescence, mais pas du tout. La fermentation, c'est un phénomène totalement naturel qui intervient de manière spontanée dans la nature. Il n'y a pas besoin d'intervention des êtres humains, puisque ce sont les micro-organismes, les bactéries, les levures, les champignons qui vont provoquer la fermentation. Et c'est tout à fait bénéfique pour la santé, on va en parler,
oui,
bien au-delà aussi. Et donc, ça nous fait du bien, et c'est une pratique qui est ancestrale, qui existe depuis la nuit des temps, dans tous les pays, dans toutes les civilisations, toutes les époques. Et donc, c'est quelque chose qui nous relie à l'humanité entière. Il y a vraiment cet universalisme dans la fermentation.
Et alors, le kéfir est une boisson fermentée?
Le kéfir de fruits ou le kéfir d'eau, ici c'est une bouteille de kéfir d'eau, est une boisson naturellement fermentée. Donc, en fait, ce sont des micro-organismes, une agrégation, une symbiose de bactéries et de levures qui... en fait, on le voit de manière visible, ça crée des petits grains translucides.
Oui.
Et donc, plus ils se multiplient, plus ils sont bien dans leur environnement, plus ils vont créer des petits grains. Et ça va créer une boisson naturellement pétillante, une boisson fermentée, un probiotique mais aussi alors, naturel.
Alors, on va revenir sur l'idée des probiotiques, mais si j'ouvre mon placard aujourd'hui, mon placard dans ma cuisine, est-ce qu'il y a beaucoup de produits fermentés? Et parfois, on l'ignore d'ailleurs.
Un tiers de notre alimentation est fermentée, ou était fermentée. Mais en
alors,
tout cas,
on
est totalement liés. Les cornichons, les olives, le café, le cacao, le poivre noir, la vanille, la moutarde, c'était fermenté. Le ketchup, c'était fermenté. Le tabasco, c'est fermenté. Les yaourts, le pain, la bière, le vin, le fromage, le saucisson, les salaisons, c'est de la fermentation. Donc, c'est vraiment très, très présent dans notre alimentation. Mais l'agro-industrie est passée par là, raccourci ou... C'est totalement affranchi du processus de fermentation, mais l'espèce humaine a survécu jusqu'à nos jours grâce à la fermentation, puisqu'avant il n'y avait pas de stérilisation, de pasteurisation, qui sont des méthodes somme toute très modernes. Il n'y avait pas de réfrigération, de congélation, et donc pour pouvoir préserver, conserver des aliments qui autrement se gâteraient trop rapidement, la viande, le lait, les êtres humains ont pratiqué la fermentation.
Alors, on va revenir sur les vertus de cette fermentation, évidemment, tout au long de l'émission, puis on va revenir aussi sur cette idée d'agro-industrie. Geneviève Héry-Arnaud, quel est le rapport entre ce kéfir, finalement, et ces bactéries que vous étudiez depuis des années?
Alors, comme s'il y a le grand mystère sur le type de bactéries,
on est d'accord.
De manière générale, le rapport, c'est... Ça correspond à une révolution qui est en train d'arriver en médecine, à savoir qu'on a complètement changé notre façon de voir les microbes. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on voyait les microbes comme l'ennemi. Mais à juste titre, on avait un héritage historique, hérité de Pasteur. On a découvert les microbes surtout à travers ce qu'ils faisaient de mal, c'est-à-dire des épidémies ou des pandémies, des infections. Et puis finalement, les données récentes, c'est de se dire, mais au final, il y a une infime partie de ces micro-organismes qui sont pathogènes, et l'immense majorité, en partie ceux qui nous colonisent, sont plutôt bénéfiques pour notre santé, et en plus, on peut enrichir notre microbiote par l'alimentation des poissons, et donc du coup j'en viens au lien avec ces boissons fermentées qui sont riches en micro-organismes vivants.
Alors je vais vous faire écouter un extrait qui va illustrer exactement ce que vous venez de dire. C'est un dessin animé qui nous a tous marqués, qui a marqué des générations, pardon, des téléspectateurs et téléspectatrices, pas tous. Écoutez, c'était un extrait de Il était une fois la vie.
Infiniment plus petit, voilà nos pires ennemis. Bactéries, virus, poisons, toxines. Voici quelques-uns de ceux qu'il nous faut combattre.
Si on s'installe dans l'estomac, ça peut faire une belle gastrite.
Par le nez, c'est facile d'entrer. Et un bon rhume, il n'y a que ça de vrai.
Une petite allergie, croyez-moi, il n'y a rien de tel pour embêter le monde.
Oh, moins qu'une bonne grippe. Qu'est-ce que vous diriez d'une grippe carabinée avec une bonne fièvre?
Moi, je dis qu'une intoxication alimentaire, c'est à considérer. On s'introduit facilement, on se développe sans problème, les défenses sont inopérantes.
C'était en 1987 et la première phrase c'est « les bactéries sont nos ennemis ». Et ce qu'on vient de comprendre, c'est qu'on est passé de ennemi à ami, c'est-à-dire que le discours scientifique a totalement changé.
Oui, complètement. C'est vrai que c'est une plongée en enfance.
Oui.
Mais remarquez, ce dessin animé continue à être regardé par les jeunes générations. J'en ai parlé récemment, on a eu l'occasion d'accueillir des lycéens au laboratoire qui faisaient leur stage de seconde. Et en fait, ils connaissaient ce dessin animé qui a énormément marqué les esprits. Parce que c'était très très bien fait et ils ont compris beaucoup de choses, notamment sur le système immunitaire grâce à ce dessin animé. Donc vous voyez, il est toujours d'actualité.
Il faudrait le refaire
et effectivement rajouter une page à ce dessin animé qui présente les bactéries sous un autre angle, qui sont effectivement l'angle plutôt bactéries amies.
Oui, vous nous disiez qu'en fait ces bactéries ennemies, elles sont infimes par rapport au reste des bactéries. Est-ce qu'on sait le pourcentage entre ennemies et amies?
Alors c'est très compliqué de parce qu'en fait, je pense qu'on est loin d'avoir décrit toute la biodiversité bactérienne sur Terre.
Il y a encore beaucoup de recherches.
Il y a encore beaucoup d'endroits qui sont totalement inexplorés. Et en fait, on se rend compte que plus on cherche, plus on en trouve. Et sur des lieux qui semblaient a priori stériles, on continue à découvrir des bactéries. Et au sein même de notre corps, c'est-à-dire qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, on pensait par exemple que les poumons étaient stériles. Et finalement, avec ces nouvelles méthodes d'analyse du microbiote, de ces flores, eh bien, on découvre que des poumons, même chez les sujets sains, contiennent des bactéries. Donc, petit à petit, on est en train de faire sauter les barrières de la stérilité et on se rend compte que ces bactéries sont une part de nous-mêmes importante et qu'elles jouent un rôle aussi important que des cellules de notre corps pour notre bonne santé.
Alors, est-ce qu'on peut préciser deux petits éléments? D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est qu'un microbiote? Et est-ce qu'on n'en a qu'un parce qu'on connaît celui de notre intestin, mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres dans notre corps humain?
Alors oui, alors, le microbiote, c'est assez simple, c'est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent une muqueuse. Donc c'est vrai qu'on fait souvent référence à la muqueuse intestinale. Donc si je prends par exemple l'intestin, dedans vous allez trouver des bactéries, des virus, également des virus qui sont dans vos bactéries, on appelle ça des bactériophages. On va retrouver des champignons, des levures, des candidats, on va retrouver également une branche du vivant qui est très peu connue qui s'appelle les archées. Et donc tout ce qui est tout ce qui nécessite un minimum un microscope pour être vu, eh bien c'est l'ensemble de ces, on va dire, ce bestiaire, ce micro-bestiaire qui fait constitue, ce qu'on appelle en fait, constitue le microbiote. Donc on parle beaucoup de l'intestin, mais à juste titre, hein, 97% des bactéries qui nous constituent sont situées au niveau de l'intestin, en particulier au niveau du côlon, mais vous pouvez trouver, si vous faites un prélèvement de peau, un prélèvement de salive, un prélèvement respiratoire, vous allez cultiver des bactéries sans aucun problème. Donc, et chez la femme, il y a également la flore vaginale,
on va
qui
en
est
parler.
Aussi un site très important de colonisation bactérienne.
On va en parler, et donc ce que vous étudiez au quotidien dans votre laboratoire, dans votre spécialité, c'est ce microbiote au sein du poumon, c'est ça? C'est votre spécialité, on
alors,
est bien
c'est
d'accord
c'est notre spécialité. Effectivement, on est né, notre équipe INSERM a été créée sur une maladie qui s'appelle la mucoviscidose, qui touche en partie les poumons. Hein, les patients atteints de cette maladie s'infectent avec des bactéries. Donc ça, c'est le côté, on va dire, bad guy, ennemi, des bactéries. Et de fil en aiguille, alors moi, étant microbiologiste, je suis intéressée à cette problématique infectieuse, pulmonaire. Et finalement, en tirant le fil, je me suis rendu compte qu'il y avait également des bactéries au niveau pulmonaire qui faisaient un effet majeur barrière qui nous protège en fait des attaques contre, on parlait tout à l'heure du SARS-CoV-2 qui faisait si peur à votre collègue, et bien effectivement il y a un effet majeur de ces bactéries qui colonisent nos poumons sur la défense antimicrobienne et notamment contre les virus respiratoires.
Eva Rock, grand bien vous fasse sur France Inter.
Est-ce que vous saviez qu'un levain peut mourir à cause des fortes chaleurs? Je vous explique ce qui m'est arrivé ces derniers jours. La semaine dernière, je me suis rendue en voiture en Haute-Savoie. Et sur le retour, évidemment, il a fait très 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 chaud. Et j'ai oublié mon vilain dans le coffre.
Not good.
À mon retour, 24 heures après, il s'était renversé dans la voiture. Et franchement, vu l'odeur de ramor qu'il avait, j'ai su que c'était la fin. Pas étonnant, hein, avec 50 degrés dans le coffre, je laisse imaginer le topo. Je suis donc rentrée et sans attendre, j'ai récupéré une sauvegarde de mon levain. Oui, une sauvegarde. Je fais sécher régulièrement mon levain. J'ai donc réhydraté mes paillettes de levain avec de l'eau, j'ai ajouté de la farine, et vu les chaleurs, j'ai pronostiqué une reprise 24 heures après. Devinez quoi? Bingo! Le levain a repris le chemin du dur labeur et a été mis à contribution dès le soir.
Extrait du compte Instagram Vilain Levain, nous parlons bactéries et fermentation ce matin avec nos deux invités, Uendo Vigneron et Geneviève Herriarnaud, bactériologue. On va revenir sur cette histoire de levain, puis surtout
le vin de Valérie,
levain qui nous fait du bien aussi à notre corps. Il y a des bactéries, vous nous le disiez, Geneviève Herriarnaud, qui sont des bactéries méchantes, ennemies pour notre corps. L'actualité nous a mis en exergue une bactérie mortelle E. coli dans l'Aisne, une jeune fille qui est décédée. Et 4 personnes étaient toujours hospitalisées après une vague d'intoxication intoxication due à une consommation de viande. On parle souvent de cette bactérie, E. coli, c'est un peu rentré dans notre quotidien. Elle se trouve où cette bactérie? C'est dans l'intestin, évidemment.
Oui, alors c'est Escherichia coli, E comme Escherichia. Et c'est une bactérie intestinale que j'en ai peut-être actuellement dans mon intestin, vous aussi. Donc en fait, c'est quand même une bactérie, on va dire, commensale, qui fait partie de notre flore. Mais certains sous-types de cette bactérie peuvent produire des toxines, et donc c'est de celles-ci dont on parle actuellement tristement. Ouais. Donc c'est notamment l'Escherichia coli O157H7, donc c'est un sous-type qui produit une toxine, et c'est la toxine produite par la bactérie qui est responsable des symptômes qui sont observés et qui peuvent aller jusqu'à malheureusement le décès. En particulier des enfants qui sont plus fragiles vis-à-vis de ces toxines.
Uendo, on sait pourquoi cette bactérie qu'on emporte tous un peu en dormance parfois se réveillent comme ça
En fait, ça résulte d'un déséquilibre majeur de notre environnement planétaire, mais aussi notre environnement, notre écologie interne. En fait, ces pathogènes sont en dormance. Et il suffit d'avoir un déséquilibre microbien pour qu'elles se réveillent aussi. Et en fait, les autres bactéries ne permettent pas d'assurer, en fait, de maintenir la dormance de ces pathogènes. En fait, c'est comme l'agriculture. À force d'avoir utilisé des pesticides, des produits, on a détruit les sols, ils sont morts et il y a un déséquilibre aujourd'hui sur l'agriculture. C'est exactement pareil à l'intérieur de nous, où le fait d'avoir une alimentation qui est de plus en plus agro-industrielle, uniformisée, standardisée,
aseptisée,
ultra transformée, en fait, on a détruit aussi nos microbiotes, notre intérieur. Donc, en fait, le réchauffement climatique qu'on est en train de constater ces derniers jours de manière flagrante, il se produit aussi à l'intérieur de nous. On a vraiment détruit la biodiversité, mais aussi la diversité variétale, qu'elle soit visible comme invisible.
Cette biodiversité, professeur, je parle sous votre contrôle, elle est extrêmement importante, cette biodiversité de nos microbiotes.
C'est vraiment le synonyme de santé. En fait, c'est ce qu'on décrit actuellement, c'est que plus un microbiote est diversifié, alors je mets à part le microbiote vaginal, qui est un petit peu l'exception
qui est le seul, qui ne doit pas être divers, en fait.
Mais en gros, c'est vrai que le synonyme, on peut mesurer, on a des indices qui nous permettent de mesurer cette biodiversité du microbiote. Et globalement, quand on a une bonne biodiversité, on a un microbiote qui est en bonne santé et ça signifie une bonne santé générale.
C'est
souvent, alors c'est beaucoup de corrélations. À l'heure actuelle, on n'a pas toujours encore la preuve d'une causalité, mais on a beaucoup d'éléments pour penser que cette biodiversité c'était un élément clé de notre santé.
D'où l'importance du processus de fermentation que vous pratiquez Uendo. Moi j'ai eu l'impression que c'était devenu un petit peu à la mode, notamment pendant le Covid, on en reparle, mais avec cette mode que nous avons eue, en tout cas nous étions nombreux à avoir de cette volonté de faire notre pain au levain, ça vient un peu de là, ce mouvement qu'on perçoit ?
C'est plus ancien que ça, mais c'est vrai que c'est une manière, justement, comme on parlait d'agro-industrie, de se réapproprier notre alimentation. Finalement, c'est savoir-faire de faire soi-même, que ce soit aussi la cueillette sauvage ou la transformation des aliments, c'est une manière de retrouver une emprise sur quelque chose qui nous échappe complètement. Et donc, c'est vrai que le Covid a été une opportunité en or. On avait le temps, on avait l'anxiété, et finalement, on ne savait plus quoi faire de nos mains. Et ça a été commencer à pétrir le pain, faire du pain. Mais la fermentation, elle est très accessible. C'est quelque chose de très simple. Comme je le disais, nos ancêtres n'avaient pas des outils, du matériel sophistiqué. C'est low-tech, finalement. Donc, c'est très facile de chez soi, faire son pain, ses yaourts, même brasser sa bière, faire des légumes lactofermentés, tout ça est très facile. Et ça permet de retrouver une maîtrise sur ce qu'on mange, comment on mange. Et ça permet aussi de retrouver le goût des choses.
C'est ce que j'allais vous demander. Parce que quels sont, en fait, si on prend l'exemple du pain, typiquement, du pain au levain, quelles sont les vertus de ce type de fermentation ?
En fait, le levain, donc c'est pareil, c'est une symbiose de micro-organismes, de bactéries et de levures qui vont venir pré-mâcher le gluten de la farine. Ça va donc complexifier le goût, ça va permettre d'avoir une meilleure digestion du pain et on va pouvoir le garder plus longtemps. Et donc vraiment ces goûts dont on n'a plus l'habitude parce qu'on mange trop sucré, trop salé, trop gras, on va retrouver les nuances des acidités, les nuances d'amère, parce qu'il y a plusieurs familles d'acides, il y a plusieurs familles d'amères, il y a 5-6 grandes familles d'amères différentes, et on a perdu cette capacité. Donc c'est aussi retrouver ces saveurs, beaucoup plus de richesse, de densité, de complexité de goût. Il y a aussi dans toutes les préparations fermentées de l'umami, le cinquième fameux goût, qui est ce côté salivant, savoureux, qu'on retrouve dans la poutargue, le parmesan, la sauce soja. Donc c'est vraiment ce qui apporte la richesse, la densité de goût, et c'est ça aussi qu'on essaie de retrouver dans un monde où tout est fade et uniformisé, on a voulu tout contrôler, tout compresser, c'est retrouver le temps du temps long, de la fermentation longue, et quelque part aussi lâcher prise un peu sur ce monde qui nous échappe.
Alors, on le disait depuis le début de l'émission, c'est-à-dire que ce processus de fermentation a disparu de nos pratiques, notamment en Occident. Est-ce que c'est différent dans les autres parties du monde ?
Oui. En fait, nous, on y revient comme une pratique de confort ou de plaisir. On y vient par passion, comme un hobby, entre guillemets. Mais dans 80% des pays du monde, c'est une question de survie, parce qu'on est encore dans des conditions soit de chaleur, soit de froid, des conditions rudes, plus ou moins, mais c'est-à-dire que c'est des manières encore qui permettent aujourd'hui de conserver les aliments, mais aussi toujours cette question de goût. Et il y a encore voilà, un attachement très profond. D'ailleurs, on voit qu'on analyse le livre de Marie-Claire Frédéric, Ni cru ni cuit, est passionnant à cet égard. On constate que toutes les civilisations, quand elles ont dû fuir, par exemple, partir en exil, en diaspora, elles sont toujours parties avec un produit fermenté. Les Juifs sont partis avec leur levain, et donc à San Francisco, aujourd'hui, il y a encore, s'il y a un incendie, la première chose qu'on va sauver, c'est le seau où on garde le levain. La sauce soja, la sauce nurmam pour les Vietnamiens ou les Vietnamiennes. Voilà, il y a vraiment des produits quand même phares, et en France, c'est la trinité, quoi. C'est le pain, le vin et le fromage ou
et
le
saucisson. Et oui, quand on y pense, en fait, c'est vraiment que des produits fermentés.
Exactement.
Quoi. Ah oui, j'avais jamais fait le rapport, oui, tout à fait.
Oui. Et donc, nous, on a évidemment l'habitude de ne voir que nos produits à nous, la choucroute, le vin, le fromage. Mais il existe des milliers de préparations fermentées différentes qui, évidemment, ne nous parlent pas ou qu'on va regarder avec suspicion. Mais l'étranger fait toujours peur.
Oui.
Bon, c'est un phénomène normal, mais il ne faut pas avoir peur, puisque c'est de la fermentation. Les autres cultures ne vont pas à dessein manger quelque chose qui vont les rendre malades ou qui vont être mauvais en goût. C'est une question de culture. C'est la civilisation fait que la fermentation est partie entière du quotidien.
Oui, oui, c'est ce que vous disiez aussi au début de l'émission, c'est-à-dire qu'au mot fermentation, tout de suite, on a des préjugés qui viennent, notamment de la putréfaction, enfin, des odeurs, quelque chose de pourri, voilà, c'est un peu... c'est la culture de la pourriture, quoi. Je pense que c'est aussi ça qui nous a...
Et pourtant, ce n'est pas ça, parce que les odeurs, c'est culturel à nouveau.
Oui, c'est culturel,
Moi, mes parents sont vietnamiens, un fromage, c'était hors de question de
pour le fromage, c'est horrible
fromage,
pour eux, voilà.
Mais on avait dans les placards des pâtes de crevettes fermentées qui sentaient tout autant. Mais tout ça, c'est culturel. Quand on parle de fromage avec les petits poils sur un camembert ou un brie, une personne asiatique va trouver ça ragoûtant. Nous, quand on parle de tofu poilu, qui est une préparation fermentée, pareil. Enfin voilà, donc tout ça, c'est culturel. Et cette question de l'étrangeté, en fait, c'est une question d'éducation. Ouais. Et on peut très bien ouvrir nos horizons, ouvrir nos largesses, en allant justement piocher dans d'autres pays, dans d'autres cultures, des produits de la fermentation. Mais ce n'est absolument pas de la pourriture ni de la putréfaction. C'est justement une transformation bénéfique, ou en tout cas une transformation d'un état à un autre grâce aux bactéries, aux levures, aux champignons.
Mais oui, en fait, ça fait. J'aime bien ce mot de transformation parce qu'en fait, il faut voir les bactéries comme des petites usines chimiques. Effectivement, l'industrie agroalimentaire est une industrie. Enfin, est une. Voilà, on fait aussi de la chimie quelque part. Mais finalement, de manière naturelle, les bactéries font ça depuis 3,8 milliards d'années, puisqu'elles sont sur Terre depuis très très longtemps. Et en fait, c'est dans leurs activités. En fait, elles utilisent des composés apportés par les aliments pour elles-mêmes grandir, enfin se multiplier. C'est ce processus qu'on appelle la fermentation. En fait, elles mettent en œuvre ce qu'on appelle des réactions chimiques et elles produisent toute une diversité de molécules chimiques qui correspondent à différentes caractères organoleptique, donc le goût, les odeurs que l'on peut trouver en fonction des zones du globe et des types de produits que l'on consomme.
Mais je vous écoute et ça me passionne parce qu'en fait, je visionne des petits... Je sais pas comment vous dire, je pense que c'est mais c'est vrai que j'imagine des petites boules avec des grands sourires et puis vraiment des amis. Mais je vous dis ça parce que j'ai l'impression que vous les envisagez aussi comme une expérience sensorielle, ces bactéries.
Ah, complètement.
Parce que vous nous parlez de l'odeur, de la matière presque.
C'est une des raisons qui m'ont fait me tourner vers la bactériologie au moment de mes études, parce que je trouvais que le côté déjà vivant, le côté observationnel aussi était très intéressant, et aussi l'aspect odeur. Et quand vous rentrez dans un laboratoire de bactériologie, ça sent. Alors certains trouvent que ça sent peut-être pas très bon. Moi, j'adore en fait toute cette diversité d'odeurs, et on fait travailler beaucoup son nez pour notamment faire du diagnostic. Moi, j'utilise mon nez en ouvrant les boîtes de Pétri. Il y a différentes odeurs en fonction des bactéries.
Mais alors, à propos de nez, d'ailleurs, dans le vin, typiquement, Uendo, ces bactéries, ces différences de bactéries provoque aussi un goût au vin qui est différent.
Des goûts et des odeurs, bonnes ou mauvaises. Ouais. Et effectivement, la fermentation, c'est un retour aussi au sensible et au sens. On pétrit le pain, on va brasser la bière, on va entendre les bocaux, les fûts siffler,
bouillonner. Vous adorez regarder ce processus.
Ah non, mais c'est, oui. C'est fascinant. Pendant les vinifications, il y a vraiment plein de choses qui se passent, mais à tout niveau sensoriel. Et il y a les odeurs. Et c'est vrai que nous, dans notre métier de vigneron-vigneronne, c'est le goût et l'odeur sont extrêmement, l'odorat sont extrêmement importants, puisque en goûtant, en sentant, on va se rendre compte ou pas s'il y a des déviances, s'il y a des défauts, ou si au contraire un vin exalte ses propriétés organoleptiques, ses arômes, ses aromatiques. Donc il y a vraiment les sens, tous les sens sont vraiment sollicités. Et pour revenir à ce que Geneviève disait au départ, avant, la fermentation, c'est aussi la base de la vie. Parce que là, on parle de fermentation alimentaire.
Alimentaire, oui. Mais sans la terre, fermentation, la terre, c'est
y a
ça.
Pas, en fait, le humus, le compost, donc le fait de, à partir de déchets organiques, produire du compost ou du humus dans la forêt ou sur terre, c'est un phénomène de fermentation. Et nous-mêmes, nous fermentons tous et toutes au moins 3 fois par jour. La digestion, c'est une fermentation. Ce sont les micro-organismes qui interviennent. Donc, le côté repoussant qu'on peut avoir de la fermentation alimentaire, il faut aussi se remettre sur un fondamental qui est de dire sans fermentation, il n'y a pas de vie. La fermentation, c'est le vivant.
Et à contrario, sans fermentation, la terre serait une énorme déchetterie.
C'est ça,
en fait, parce
c'est
qu'en
ça.
Fait, on accumulerait les déchets.
Et les corps.
Et sans ce phénomène de fermentation, la vie serait quasiment impossible sur Terre.
Grand bien vous fasse. Eva Rock sur France Inter.
Les bactéries sur notre peau constituent une très bonne protection contre les agents pathogènes. Elle est notre première ligne de défense. Pour le corps humain, les microbes sont vraiment des partenaires. Nous avons besoin d'être en contact avec eux, sinon nous risquons de développer des maladies inflammatoires comme les allergies alimentaires, l'asthme ou l'eczéma.
Extrait du documentaire « Vive les microbes » de Marie-Monique Robin. Nous sommes en présence de la vigneronne Uendo et de la bactériologue Geneviève Herry-Arnaud. Et jusqu'à 11h, nous parlons bactéries. Uendo, avant de passer aux questions des auditeurs, ils sont très nombreux à nous envoyer leurs questions. Je me posais une question sur comment on peut dépasser en fait la mode de la fermentation que l'on perçoit parfois un peu aujourd'hui pour l'instaurer vraiment comme une pratique régulière. Parce qu'il ne faudrait pas que finalement la fermentation soit aussi, ma question, je connais un peu la réponse, que je me disais, il ne faut pas que l'industrie vienne aussi sur ces plates-bandes. Bon, c'est déjà un peu trop tard, on est d'accord. Voilà.
Danone, Nestlé,
sont déjà emparés. Mais comment en fait faire en sorte que nous, au quotidien, on vienne sur ce type de pratique?
Juste la transmission. La fermentation, c'est quelque chose qui a toujours été transmis de génération en génération, de mère en fille, de père en fils, sur les tout types de fermentation partout dans le monde, comme je le disais. Et donc, allez chercher quelqu'un qui fermente à côté de vous, qui fait son pain, qui fait son yaourt, qui fait son fromage, qui fait ses bocaux lacto-fermentés. Il y a des ateliers partout en France qui sont proposés aujourd'hui à la campagne, en ville. Et ça vient démystifier un peu quelque chose qui fait peur.
Oui.
Tout à fait, ça on l'entend. Et très facilement, en plus ça permet de goûter. Parce qu'une des craintes souvent c'est de dire « Ah, je ne vais pas aimer parce que c'est trop acide, c'est trop ceci, c'est trop cela ». Allez goûter, parce qu'en fait, ce n'est pas standardisé. Il y a une palette chromatique absolument de goût qui est absolument énorme, même sur des simples légumes lacto-fermentés. Donc c'est aller faire du collectif, aller rencontrer des personnes qui pratiquent, et puis surtout, la fermentation n'a pas de... efface vraiment toutes les conditions de race, de genre, d'appartenance sociale. Tout le monde fermente de classe privilégiée, comme la classe ouvrière. Enfin, on mange tous et toutes fermentées, et on est tous capables de fermenter.
C'est le vin qui vous a amené à la fermentation, ou pas du tout? Vous aviez découvert ce processus?
Alors, mes parents, donc vietnamiens, on mangeait beaucoup fermenté à la maison.
Le Nguyen Man, c'est une des premières sauces fermentées qu'on utilise.
Mais je n'en avais pas conscience.
D'accord.
Et souvent, on n'en a pas conscience. Encore à l'heure actuelle, on n'a pas conscience que la plupart des aliments qu'on consomme sont issus de la fermentation. Et c'est vrai que le fait de devenir agricultrice et vigneronne m'a ouvert un champ sur les possibilités microbiennes. Et en fait, très peu de vignerons et vigneronnes s'intéressent à ça. Or, c'est énorme dans notre travail. Et en fait, en se focalisant sur le microbiologique, on peut justement travailler de manière plus fine sur les vinifications, surtout comme nous, on est en vinification naturelle, avec des levures indigènes qu'on va utiliser, non pas des levures industrielles.
Oui, tout à fait. Geneviève Herry-Arnaud, je voudrais vous soumettre des questions de nos auditeurs, qui me paraissent assez importantes, et je pense, et je suis même persuadée que vous avez la réponse. Florence nous dit, ne devrait-on pas faire une analyse de notre microbiote intestinal quand tout va bien, pour pouvoir mieux rééquilibrer quand ça ne va pas, ou pour pallier même la prise d'antibiotiques?
Je comprends la tentation, parce qu'on
aimerait tous
une espèce
tous,
de
fait.
Curiosité, mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la science n'est pas capable de dire quelle est la référence en termes de bon microbiote. Donc moi, j'ai un premier conseil à donner, c'est quand tout va bien, ça ne sert à rien d'aller analyser son microbiote, en fait. S'il n'y a pas de symptômes, c'est que finalement, on a un microbiote qui
Et quels seraient les symptômes, par exemple, dans le cadre du microbiote intestinal, qui pourraient nous inquiéter et évoquer un déséquilibre?
Bah, souvent, un des premiers signes d'appel, ça va être des diarrhées. Hein. Ouais. C'est vrai que la diarrhée, c'est un déséquilibre manifeste du microbiote. On en parle de dysbiose. Mais même à la limite, j'ai envie de dire, quand il y a une dysbiose, c'est même plus la peine d'aller faire une analyse. En fait, à l'heure actuelle, ce qui est un facteur limitant dans l'analyse du microbiote, c'est qu'on n'a pas de standard de référence. En fait, autrement dit, on est incapable de dire qu'est-ce qu'un microbiote normal d'un microbiote anormal. Et très probablement, un microbiote sera normal chez un individu A, et vous mettez le même microbiote chez un individu B, ça ne lui conviendra pas.
D'accord.
Et en fait, à l'heure actuelle, on est bloqué par ça, on n'a pas suffisamment de données, de connaissances, pour connaître les normes d'un bon microbiote ou d'un microbiote anormal.
Parce que ce microbiote, en fait, il est lié à tout ce qu'on est, à
et
notre
voilà,
environnement.
En fait,
aussi,
c'est notre, il ne faut pas oublier, c'est notre second génome. Et comme vous le savez, vous êtes unique par votre génome. Eh bien, c'est la même chose avec votre microbiote, vous êtes unique avec votre propre microbiote. Donc finalement, c'est très difficile d'avoir une règle générale pour tous les individus. Donc c'est bien sûr le but des recherches qui sont actuellement menées. Il y a notamment en France une initiative qui s'appelle le French Gut, qui vise à décrire 100 000 microbiotes intestinaux de Français, de manière à avoir déjà une description générale de la diversité biomicrobienne intestinale chez les Français. Et à partir de là, probablement avec beaucoup d'algorithmes, donc de la mathématique, on arrivera à essayer de générer des données qui soient transposables à tout individu. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que les tests microbiote ne sont pas valables en médecine.
On va vers une médecine de plus en plus personnalisée,
voilà,
comme on dit aujourd'hui.
C'est exactement ça, c'est la médecine personnalisée, mais ça nécessite qu'on collige énormément de données, à la fois sur le microbiote, mais également sur l'individu, sur son exposome, c'est-à-dire tous les facteurs environnementaux auxquels il a été exposé depuis sa vie in utero. Et donc ça, c'est un travail gigantesque qui est actuellement en train d'être menée.
Si j'ai un déséquilibre du microbiote intestinal, est-ce que ça a des répercussions sur le reste de mon corps ?
Alors oui, en fait, il faut vraiment voir le microbiote intestinal comme un chef d'orchestre. Je vous disais tout à l'heure,
c'est pour ça qu'on 97... parle du deuxième cerveau.
Deuxième cerveau, c'est aussi parce que c'est une zone de l'organisme qui est soumise, en fait, il y a tout un réseau de neurones. Il y a à peu près l'équivalent, on dit, du cerveau d'un petit chien au niveau de l'intestin. Donc en fait, les bactéries produisent des molécules qui sont des neurotransmetteurs, donc qui envoient des signaux et qui vont directement trouver des neurones au niveau intestinal qui vont directement envoyer des signaux au niveau de notre cerveau, puisqu'il y a un nerf qui s'appelle le nerf vague qui relie notre intestin à notre cerveau. Donc finalement, notre microbiote intestinal est un peu le chef d'orchestre de notre cerveau, mais pas que, également d'autres organes. Et vous voyez, dans notre équipe de recherche, nous on s'intéresse aux maladies pulmonaires, et donc on ne fait pas abstraction aussi du microbiote intestinal, puisqu'on a découvert qu'il y avait un axe de communication entre les bactéries intestinales et les poumons. Et donc c'est aussi très important d'aller regarder ce qui se passe au niveau intestinal. Et ça vaut à peu près pour toutes les zones de votre corps.
Je reviens sur cette idée de cerveau, parce que vous en parlez dans votre livre, de ce lien entre intestin et cerveau. Mm-hmm. Ça veut dire qu'un déséquilibre de notre microbiote peut avoir un lien avec des maladies mentales?
Oui, à l'heure actuelle, c'est vrai
je
que...
Je ne sais pas si je vous ai formulé
si,
correctement
si, c'est
la
tout
question.
À fait ça. Alors, en fait, c'est toujours la difficulté, c'est faire la différence entre corrélation et causalité. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de données qui montrent que chez des patients qui souffrent de maladies psychiatriques, quand on fait l'analyse de leur microbiote, on va constater qu'il y a un déséquilibre. Donc ça, c'est une corrélation. Mais de là à dire que c'est parce qu'il y a le déséquilibre intestinal que ça a provoqué... Voilà, c'est souvent des maladies qui sont multifactorielles. Et je discutais pas plus tard que la semaine dernière avec un psychiatre de mon hôpital, et il me disait, le microbiote, nous, ça nous apporte finalement le chaînon manquant pour comprendre la physiopathologie, le mécanisme de déclenchement de ces maladies, et c'est probablement un des facteurs très importants dans le déclenchement de ces pathologies.
On a beaucoup de questions de nos auditeurs, et Victor notamment, qui nous demande, est-ce qu'une prise d'antibiotiques à court ou long terme peut avoir un impact à court ou long terme sur le microbiote et amener des maladies immunitaires à apparaître?
Ah oui, alors ça, c'est des données, effectivement... qui sont très importantes et on y pense forcément une fois qu'on a compris que ces bactéries intestinales sont nos amies. On se dit que finalement les molécules que l'on prend qui tuent les bactéries qu'on appelle les antibiotiques peuvent avoir des effets délétères et c'est tout à fait vrai. C'est démontré notamment chez les jeunes enfants qui prennent des antibiotiques très tôt. Il y a eu des grandes études épidémiologiques qui ont montré qu'ils étaient beaucoup plus sujets à des maladies allergiques, auto-immunes et donc on peut avoir effectivement une dysbiose qui est créée et qui peut durer pendant des années provoquée par la prise d'antibiotiques. Et il y a des données qui montrent que même chez un individu, une seule prise d'antibiotiques peut parfois générer des dégâts pendant très longtemps au niveau du microbiote intestinal.
D'où la nécessité aussi d'avoir une alimentation équilibrée, d'avoir une hygiène de
d'apporter,
vie.
Oui, une voilà, biodiversité correct, en contrepartie, ça. Notamment avec des aliments par exemple lactofermentés.
Voilà. Uendo, on a vu dans les rayons des pharmacies se développer des gammes entières de probiotiques. Je vous avoue que moi, je suis un peu sceptique quand je suis devant parce que je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Je ne sais même pas comment ça marche. Je ne sais même pas si ça va me faire du bien. Quel regard vous portez sur tous ces produits ?
Eh bien, en fait, il y a effectivement une manne financière énorme pour beaucoup d'industries, alors que les probiotiques, finalement, ce sont des micro-organismes qu'on retrouve dans notre alimentation ouais. aussi. Donc il suffirait de manger des produits fermentés pour retrouver une diversité microbienne et pour être en bonne santé. En fait, c'est ça que ça nous apprend, l'importance de toutes ces bactéries qui sont autour de nous, qui sont en nous, pour changer de regard et d'égard par rapport à l'invisible et de les préserver le plus possible. Donc effectivement, les antibiotiques qui peuvent détruire en fait notre microbiote, ça peut être rééquilibré, rétabli par une alimentation qui est diversifiée et une alimentation fermentée aussi. Les probiotiques vendus en pharmacie, c'est très cher. Et ce sont des sélections industrielles de certaines bactéries, de certaines levures qui vont... Mais voilà, on n'a pas la diversité, la grande globalité de tous ces micro-organismes qui peuvent nous habiter.
Oui,
Geneviève. Je voudrais peut-être donner aussi une version médicale en fait, oui. des probiotiques, parce qu'il y a une définition de l'OMS hein, qui nous dit qu'en fait ce sont des micro-organismes vivants, le mot vivant est vraiment important, qui, quand ils sont absorbés, confèrent un bénéfice sur la santé d'un individu. Et c'est vrai que maintenant, on est en train de bouger énormément les lignes en médecine et dans le médicament, puisqu'on arrive maintenant à une nouvelle notion de bactéries médicales. Et donc, dès lors que l'on va vers une allégation santé, donc ce terme de probiotique, on peut remplacer maintenant par le terme de bactérie bénéfique, où on a un acronyme qui nous vient de l'anglais LBP, hein, oui. c'est Live Biotherapeutic Product, donc en fait des produits vivants, biothérapeutiques. Et bien, à l'heure actuelle, la législation européenne a changé et exige en fait qu'on apporte à la fois la preuve d'innocuité et d'efficacité. Donc en fait, on est en train de prendre le chemin que l'on connaît sur les médicaments chimiques pour mieux cadrer, puisqu'il y a des probiotiques qui ont des activités très intéressantes et ce serait dommage en fait aussi de s'en passer. Et donc il faut aussi que la médecine s'empare de ces nouvelles thérapies dans des cadres très encadrés. Ça n'empêche pas bien sûr par ailleurs une alimentation lacto-fermentée, mais je pense que côté médical, ce mouvement qui est en train de se faire est aussi très important puisque c'est des nouvelles possibilités thérapeutiques.
Uendo, est-ce que vous avez ressenti des différences dans votre corps depuis que vous consommez beaucoup de produits fermentés ? Ou vous en avez toujours consommé au fond ?
Oui, alors effectivement, ça apporte à plein de niveaux. En fait, comme je l'explique dans mon livre, il y a plusieurs niveaux en fait d'interaction grâce à la fermentation. Où, comme Geneviève l'expliquait, il y a vraiment ce lien direct entre nos humeurs, nos états émotionnels, entre le cerveau et l'intestin. Mais au-delà de ça, c'est la fermentation, c'est se reconnecter aussi aux saisons, aux cycles, comme je disais, oui. au temps long. C'est aussi l'éloge de l'échec. En fait, comme c'est vivant, on ne peut pas contrôler, maîtriser les micro-organismes.
J'ai une question pour vous là-dessus, mais est-ce que vous pouvez... Ne dites plus rien.
Je me tais.
France Inter. Grand bien vous fasse. Eva Rock.
Cet aliment moisi est le secret de la santé des Japonais. Si tu vas au Japon mais que tu n'as jamais goûté cette préparation, alors tu as loupé quelque chose. Le natto, c'est un aliment de base pour le peuple japonais. On le mange tel quel, sur du riz, dans les sushis ou encore en mélange avec de l'œuf cru et de la ciboule. Le natto est constitué.
Alors, vous pouvez tout savoir sur le natto si vous fréquentez les réseaux sociaux et notamment Instagram. C'est vraiment l'aliment à la mode dont on parle partout. C'est un aliment fermenté. Et c'est la fermentation, c'est un des sujets que nous abordons avec nos deux invités. Juste avant, Uendo, qu'on revienne sur ce natto, un mot très important. Est-ce qu'on est tous prêts, et tous prêts même physiquement, à consommer des produits fermentés? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ne supportent pas les produits fermentés?
Alors, heureusement, ça ne concerne qu'une toute petite partie. Ouais. Infime de la population qui effectivement peuvent développer des réactions allergiques ouais. en consommant des produits fermentés. Souvent, ce sont des personnes qui sont aussi allergiques aux histamines, voilà, qui ont des conditions pathologiques qui font que ça peut au contraire susciter des réactions dermatologiques, des diarrhées, des ballonnements.
Donc il faut faire attention aux premiers signes physiques que l'on ressent après la consommation d'un produit fermenté.
Et c'est vrai que ça peut être perturbant puisqu'on n'arrête pas de dire que la fermentation c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé. Et il y a quelques personnes, une minorité, qui n'ont pas ces effets-là et qui se posent des questions. Ouais. Mais donc, effectivement, il faut rester vigilant sur... Mais ça concerne vraiment très peu de gens.
Professeur.
Alors après, moi, je vais donner un point de vue peut-être un petit peu complémentaire. Je pense qu'il faut voir, finalement, nous et nos bactéries comme un couple. Et finalement, on a notre génome qui a façonné aussi notre microbiome. Et il y a un couple, en fait, qui existe en fonction de nos origines et en fonction des bactéries auxquelles on a été habitué de génération en génération. On sait aussi qu'on a récupérer des bactéries qui viennent de notre mère, voire de notre grand-mère. Et finalement, c'est aussi cette question d'adaptation de notre alimentation depuis des années qui ont fait que on a tel ou tel microbiote qui est fait pour telle ou telle alimentation. Et vous voyez, en médecine, il y a des choses très intéressantes que l'on observe chez des migrants qui, en changeant en fait, de mode d'alimentation, vont provoquer une dysbiose et vont provoquer des maladies. Oui. Notamment, par exemple, dans la schizophrénie, on sait que le fait d'être migrant première ou seconde génération, c'est un facteur de risque. Donc je pense aussi qu'il y a derrière ça aussi cette complémentarité entre l'aliment d'un pays et puis le génome porté par les habitants de ce pays. Donc là aussi il y a énormément de recherches à faire entre génome et microbiome.
On a un message de Roxana justement qui nous dit: que pensez-vous de la consommation de produits au lait cru qui est déconseillée pour les enfants alors que la pasteurisation contribue à appauvrir notre microbiote, hein?
Alors on en revient sur la fameuse bactérie tristement célèbre, Escherichia coli au 157H7. Le problème, c'est qu'effectivement, à un âge trop jeune, un lait cru peut contenir des bactéries qui viennent en fait de l'intestin des bovins, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, en fait, cette bactérie qui donne ce syndrome hémolytique et urémique vient en fait des ovins et des bovins. Et donc, quand vous consommez du lait cru, potentiellement, vous pouvez avoir une contamination du lait avec cette bactérie qui est absolument dangereuse, très pathogène, potentiellement pour les nouveau-nés ou pour les petits-enfants. Effectivement, on dit en dessous de 5 ans, on déconseille, en fait, et ça, c'est les sociétés académiques de médecine qui déconseillent la consommation de fromage au lait cru.
Et on les comprend mieux en vous écoutant. Merci beaucoup. Uendo, vous le disiez là, juste avant que je vous coupe, de façon vraiment pas polie de ma part, vous parliez de l'échec, parce que c'est vrai que le processus de fermentation, vous pouvez vous planter quand vous êtes en train de faire une fermentation de légumes ou je ne sais quoi. Comment on sait qu'on est en train de louper et comment on sait surtout qu'on risque pas de s'empoisonner?
Alors, si c'était dangereux pour la santé, on serait pas là pour en parler. Oui. Parce que ça est pratiqué depuis des milliers d'années. D'accord, plusieurs dizaines de milliers d'années. Effectivement, pour le cas spécifique des légumes lactofermentés, par exemple, qu'on veut préserver, ça a une odeur épouvantable, parce que là, justement, on est parti sur de la putréfaction. Donc, si vous ratez et que vous ouvrez un bocal, ça sent tellement mauvais que, instinctivement,
votre corps ne vous
ira pas. Ouais. Vous voyez, c'est le rat mort en bord d'autoroute, cette odeur-là. Mais après, ça peut développer des odeurs, comme on le disait, le fromage, tout ça, ça a des odeurs. Mais c'est vraiment une odeur tellement pestilentielle qu'on ne va pas y aller. Maintenant, effectivement, la fermentation, c'est des échecs, parce qu'on est avec le vivant, qu'on n'a pas réussi, qu'on ne peut pas, en fait, comprimer, compresser, contrôler. Et donc, c'est accepter qu'on est juste là pour accompagner. Donc nous, en tant que vigneron-vigneronne, on accompagne ce vivant. Et ben, certaines années, ça marche très bien. Et d'autres années, ça marche moins bien. Oui. Et quand on n'est pas du tout dans une dynamique agro-industrielle ou industrielle, on n'a pas ces millésimes qui, chaque année, sont goûtent toujours pareil. Au contraire, il faut accepter que 2022, c'était excellent, 2023, moins. Voilà, parce qu'il y a des conditions climatiques, il y a des conditions microbiennes qui changent, qui évoluent, qui sont aléatoires. Donc l'échec, c'est normal. Donc ça permet aussi de relativiser énormément sur, dans une société de la concurrence, de la compétitivité, de se dire, non, en fait, le vivant, c'est ça, c'est l'aléatoire, et accepter l'échec.
Et l'école de l'humilité. Voilà. Comme chaque jour, j'aimerais que nous terminions avec vos coups de cœur qui vont nous permettre de poursuivre cette réflexion. Alors, aujourd'hui, en l'occurrence, sur ces gentilles bactéries. Uendo, quelle est votre recommandation?
On n'aura pas parlé du natto, je suis déçue.
Bon.
Donc, je vais rester dans le côté recette. Justement, là, il a fait très, 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 très chaud. On avait besoin de se rafraîchir. On ne voulait pas allumer la cuisine. Donc, c'est une recette. Donc, c'est le chownik, qui est une recette de soupe polonaise à la betterave lactofermentée. Donc, on mélange des betteraves lactofermentées avec du yaourt qu'on a fait soi-même, par exemple. Et puis, on mixe, on met au réfrigérateur, on met des concombres râpés, des rondelles de radis. Et ça fait quelque chose de très bon, qui est une tradition en Pologne, qui rafraîchit et on n'aura pas allumé son four ou sa gazinière.
Vous savez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez nous donner à Au Calme la recette et puis on va la mettre sur la page de l'émission via l'application de Radio France. Merci infiniment, professeur Geneviève.
Alors,
j'allais dire Geneviève, professeur Geneviève.
Geneviève, aucun souci. Alors, une autre façon d'échapper à la chaleur, c'est d'aller dans les musées.
Mais oui.
Et donc, moi, j'avais un musée à vous conseiller, qui est un musée fantastique pour faire la rencontre avec les microbes. C'est vrai qu'on en parle comme ça, mais c'est bien de pouvoir les visualiser. Et donc, il se trouve qu'à Amsterdam, il y a un musée fantastique qui s'appelle Micropia, qui présente les microbes.
Génial.
Et donc, par exemple, quand vous vous embrassez, il y a tout un échange de microbes, et donc, ils vont vous présenter ça, où on va vous montrer dans les différentes zones de votre corps tous les microbes que vous avez. Vous avez des magnifiques boîtes de culture, tout ça, c'est très joliment mis en lumière, j'allais dire en musique, mais non, en lumière. Et donc voilà, c'est mon coup de cœur, Micropia.
Vous m'embarquez à Amsterdam pour aller voir le musée du microbe. Merci infiniment à toutes les deux. Toutes les références de vos ouvrages sont à retrouver sur la page de l'émission. Elles, ce sont mes petites bactéries aussi, à la réalisation Claire Destacan, Anna Massardier, Jessica Bagic, Noélia Filiol et Elina Garcia ont assuré la préparation de l'émission et la technique ce matin. Il y avait Loïc Frapsos et Guillaume Roux.
Rendez-vous face. Podcast France Inter.